de ce site qui en contient 6. Donc c'est la troisième contenance de ce site qui en contient 6 sur le corps en extension. Voilà. Andrea nous a demandé d'organiser un peu ces conférences. Et puis Jacques prendra entre guillemets la suite des trois autres prochaines conférences qui auront lieu à l'HEP, qui sont complétées en fait, avec cette organisation sur ces 6 conférences donc, sur le corps en éducation. Voilà, donc nous avons eu le plaisir de recevoir Roland Wescar il y a 2 mois. Je ne me rappelle plus son prénom, Omar Zana. Et puis, donc, Jacques Souris, professeur Jacques Souris, Université de Nantes, qui, bah, lui, plutôt, on l'a sollicité en disant que peut-être qu'on pourrait parler un peu plus d'éducation physique scolaire, puisque c'est l'un de ses compétences, voilà, et qui était peut-être un peu moins avec les autres intervenants. Donc voilà, on essaie de balayer un peu tous les domaines, tous les secteurs dans lesquels le corps, dans l'éducation, peut être mobilisé. Jacques Souris, on se connaît parce qu'on partage un certain nombre de travaux et de recherches dans des directions qui sont similaires. Professeur donc à l'Université de Nantes, spécialiste, je peux le dire, spécialiste de voile. C'est quand même un grand domaine qui a fait ça, c'est un travail de recherche, puis plus particulièrement les relations entre les équipes en voile. Et puis, mais voilà, c'est pas seulement que ça se faisait, puisque justement, on ne parlera pas de voile, normalement, je parle aujourd'hui, mais plutôt d'éducation physique, voilà. Donc, il a plusieurs cordes à son arc, comme on dit, voilà. Et voilà, et puis je vous laisse. On a comme d'habitude conférence et un peu de discussion.
Merci. Bien, merci beaucoup. Merci en tout cas Denis pour cet accueil et pour cette invitation. Je suis très, très heureux de parler devant vous ce soir et en plus de reconnaître des vieilles connaissances dans l'assistance, ça fait d'autant plus plaisir. Bon, alors c'est vrai que quand Denis m'a proposé cette intervention sur la relation corps et éducation, finalement, nous, on ne s'intéresse pas tellement au corps. C'est un peu paradoxal, on s'intéresse à l'éducation physique, mais comme je le disais tout à l'heure, on s'intéresse surtout à l'activité incarnée plutôt qu'au corps en tant que tel ou comme quelque chose qui serait isolable ou dépositaire d'un ensemble de choses en soi. Alors bon, j'ai intitulé cette intervention « L'apprentissage en éducation physique comme histoire individuelle et collective » et puis après un titre... une vision incarnée, située, là c'était incarné, c'est pour dire je suis bien dans le sujet, attention, située et vécue de l'activité des élèves. Je vais essayer d'expliquer tout ça. Ce que j'ai prévu, c'est d'articuler des préoccupations à la fois de chercheurs, en tout cas dans quelle perspective on s'intéresse à ces activités des élèves et parfois aussi des enseignants en éducation physique, dans quelle perspective, avec quel point de vue et avec quelle méthode aussi on le fait. Alors ça, je vais essayer d'être assez rapide et en tout cas, si vous souhaitez qu'on approfondisse ces points-là, on pourra y revenir ensuite. Mais pour ensuite plutôt parler de quelques illustrations qui sont issues de recherches empiriques qu'on mène. Alors qu'on mène, c'est essentiellement les étudiants qui travaillent avec moi qui les mènent directement. Sont des étudiants en thèse ou en master qui travaillent sur ces terrains-là d'éducation physique et donc qui illustrent un petit peu cette vision de incarner, situer avec vous l'activité des élèves. J'ai prévu cet exposé en quatre temps, ce qui reprennent un petit peu ce que je vous ai expliqué, les deux premiers étant pour exposer un peu la perspective théorique autour de ça. Et puis il y avait un lien qui me semblait intéressant aussi à faire, c'est le lien entre éducation de corps et culture. Et c'est vrai que ces deux dimensions qui sont, j'ai voulu un peu distinguer là dans l'exposé. Alors, sur le premier temps, je commencerai par une réflexion sur la notion de corps et aussi sur justement ce qui m'a d'emblée posé le problème. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ça fait écho à une expérience assez récente où des collègues sociologues m'ont fait intervenir dans un séminaire qu'ils organisaient autour des méthodes pour accéder au corps dans les situations pratiques, mais du côté de sociologues et d'anthropologues. Et ça m'a mis tout de suite en difficulté, parce que je me dis, finalement, nous, on ne s'intéresse pas au corps. La question qui se posait, c'est qu'est-ce que les institutions font au corps? Comment les corps se transforment? Comment les corps se transforment par un système de pratiques, de normes, de valeurs portées par des institutions? Et tout de suite, la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que nous, on s'intéressait davantage à l'activité, en cela qu'elle était incarnée, qu'elle était une activité qui associe. En jeu, des sensations, des émotions, tout un ensemble de caractéristiques qui renvoient à de l'action motrice aussi, de la proprioception, etc. Mais finalement, le corps en tant que tel, ce n'était pas tellement un objet. Ce qui était un objet, c'était cette activité incarnée, donc qui donnait lieu à ces sensations, à ces émotions, à ces expériences corporelles, ces expériences. Et je trouvais que ça faisait, ça tranchait d'emblée avec quand même une façon assez classique d'aborder le corps en psychologie, parce que je me présente un peu sous un bandeau psychologie phénoménologique empirique. Alors mais finalement, on s'aperçoit que le statut du corps dans les sciences cognitives et en psychologie cognitive, cognitiviste en particulier, a été... finalement évacué, le corps a été évacué, puisqu'on en fait une sorte d'instrument qui est piloté, qui serait piloté par la cognition, et il est évacué aussi, ce qui est évacué aussi dans cette vision cognitiviste, c'est finalement la culture, puisque, et d'ailleurs c'est assez bien résumé par une réflexion qu'avait à la fin de son ouvrage, où il dit on a finalement bien distingué le travail des anthropologues et le travail des psychologues. Les anthropologues s'intéressaient au contenu des représentations partagées, des contenus culturels, et les psychologues s'intéressaient eux au processus par lesquels ces contenus étaient manipulés et faisaient l'objet de toutes sortes de traitements. Donc en fait, il y a une division du travail, les psychologues s'intéressent au processus et puis les processus mentaux qui manipulent ces représentations, et les anthropologues s'intéresseraient à ça. Et en fait, c'est vrai que c'est en rupture avec cette vision-là que je présente en tout cas la place qu'on donne au corps. C'est un corps éprouvé, un corps vécu et un corps en train d'agir. C'est jamais un corps en tant que tel. Alors, on se réfère, je vais aller vite sur ces présupposés, mais quand même ils sont assez importants pour bien poser les choses. On se réfère à une approche de la cognition qui est une approche très inspirée par les théories dites de l'inaction et de la cognition située. Donc, ce que pose cette théorie d'une manière assez générale, c'est l'idée que finalement l'unité d'analyse, c'est le couplage entre un organisme, un système, un individu donc, et son environnement. Et la cognition relève de, finalement, c'est l'émergence de ce couplage. Et finalement, ce couplage, il est global, il est indissociable. Et on retrouve là d'ailleurs des thématiques qui avaient été développées par des auteurs précédemment, des auteurs qui sont inscrits dans le courant phénoménologique, mais par exemple Merleau-Ponty qui distingue cette notion de corps propre et de monde propre. Donc en fait, cette idée que finalement on agrège, on associe toujours dans l'analyse l'individu est immergé en situation, en prise avec cette situation, et les deux se co-définissent. Ça, c'est un postulat fort. Le deuxième postulat, c'est celui que finalement toute activité donne lieu à expérience. Et cette expérience, alors dans le cadre théorique dans lequel on inscrit nos travaux, une d'identifier un ordre de phénomène particulier qui est ce qu'on appelle la conscience pré-réflexive et qui serait l'effet de surface de ce couplage, c'est-à-dire qui serait quelque chose de un phénomène relativement intuitif. Tout le monde à chaque instant a une certaine conscience de ce qu'il est en train de faire, de sa présence au monde, de son environnement, de ce qui l'entoure, de ce qu'il ressent, etc. Et finalement, la conscience pré-réflexive à chaque instant, c'est ça. C'est l'expérience que fait chaque individu à chaque instant de sa propre activité. Mais ce n'est pas une expérience réflexive, au sens où il n'est pas en train de se regarder, s'analyser, s'observer, en train de le faire. C'est une expérience immédiate de ce que l'on fait. Et donc c'est en général l'expérience des situations. Alors, des fois ces situations elles intègrent des dimensions corporelles, de la fatigue, des sensations de bien-être, je ne sais quoi. Mais c'est aussi l'expérience de l'expression des gens qui sont en face de nous, la chaleur ambiante, de tout un ensemble de choses de ce type-là. Et pourquoi j'évoque ça, c'est que finalement, c'est la façon qu'ont les individus de donner un sens ou de comprendre même le sens de leur activité à chaque instant. Encore une fois, c'est une compréhension non réflexive, c'est pas une compréhension intellectualisée, au raisonnement, quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on, on peut dire, les élèves, quand ils agissent en situation de classe, ils vivent une expérience qui a une certaine tonalité émotionnelle, qui reflète une certaine intentionnalité, cherchent à faire des choses, et ils ont aussi des interprétations, ils ont aussi des sentiments, des perceptions, etc. Voilà, c'est ça qu'on analyse, c'est ce flux ininterrompu de présence à soi qui accompagne toute activité. Par exemple, là, dans cette petite vignette, le dialogue entre deux élèves qui se préparent à faire une figure de cirque avec une boule, avec un ballon. Et donc, il y en a un qui dit à l'autre, on pourrait faire les surfeurs sur la boule. Et bon, il s'avère, à partir des entretiens qu'on a menés avec ces élèves, que finalement, cette histoire de surfeur, ça vient de l'intention et de ce qu'a prescrit l'enseignant. Hein, faut que vous trouviez des idées originales à présenter pour vos camarades. Et donc ça fait partie de ce que mobilisent les élèves à ce moment-là. Mais aussi, c'est une image qui leur vient à ce moment-là, parce que ces deux élèves-là, ils se trouvent que dans leur histoire personnelle, ces deux copains, ils font du surf. Et donc, cette histoire de surfeur s'inscrit dans ce qui a du sens pour eux à ce moment-là. Donc en fait, on part de cette idée d'étudier ou de prendre en compte ce que vivent les élèves dans cette situation. Alors, un troisième mot-clé que j'avais pointé dans le titre de l'intervention, c'était la notion d'histoire. Et finalement, elle découle un petit peu de la précédente, c'est-à-dire que toute expérience humaine, quelle qu'elle soit, elle hérite à chaque instant de l'expérience passée. Ça le cours d'expérience passé, alors cours d'expérience pour parler justement de l'historicité, du fait que c'est un décours, cette activité de l'individu, elle à la fois elle hérite de cette expérience passée, puis elle est projetée vers un futur, bon là les élèves ils cherchent à faire une figure de cirque, ils ont des anticipations, ils ont des horizons d'attente plus ou moins lointains, et ce que je traduis en disant que finalement, à chaque instant, l'activité contient du temps, elle n'est pas... on nous a souvent fait ce reproche, mais vous avez l'action située, vous analysez l'émergence à chaque instant de l'action, comme si il y avait à chaque fois de l'intention et du renouveau permanent. Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, elle est vécue comme un moment singulier au moment où elle se produit, mais en même temps, elle est cultivée au sens où elle est porteuse d'un ensemble d'expériences qui ont déjà été vécues et qui préfigurent ou qui configurent en tout cas les expériences qu'on peut avoir à l'instant. Donc elle contient le temps passé et aussi elle est contenue dans le temps, c'est-à-dire elle fait histoire, elle prend forme dans le temps. toute expérience est dynamiquement située. Il y a un avant, un après, il y a des fois des séquences, des rebondissements, il y a un scénario, enfin quelque chose qui pourrait être d'ailleurs décrit de façon quasiment narrative, un peu comme un scénario, et qui fait histoire pour l'acteur. D'ailleurs, sans que lui-même sache à chaque instant raconter cette histoire-là d'une manière très linéaire, hein, mais en tout cas, à partir de l'analyse, on peut repérer des continuités, on peut repérer des bifurcations, on peut repérer des renversements, des changements de sein de cette histoire. Et donc, si j'explique tout ça, c'est pour expliquer ensuite comment on va analyser l'activité des élèves, comme aussi des histoires qui se prolongent dans le temps, qui reprennent des choses qu'ils ont faites avant ou pas, etc. Et comment d'ailleurs ça a un lien avec l'apprentissage. Parce que un peu une des idées forces des études qu'on a menées, c'est que l'apprentissage s'inscrit de façon forte dans des histoires qui ont du sens pour les élèves. Alors, si on veut tenir ces présupposés, quelles conditions méthodologiques, là aussi j'essaie d'aller assez vite là-dessus, mais évidemment, si on dit l'activité des élèves est indissociable des circonstances, des conditions qu'ils vivent à chaque instant, et indissociable de ces conditions matérielles, bon, ben, on ne peut pas faire autrement que d'aller étudier l'activité des élèves en classe, dans les conditions dites, alors entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais dites naturelles de la classe, dans les établissements scolaires, dans des conditions dites écologiques, naturelles, bon, en essayant de les moins, entre guillemets, aussi dénaturer, sachant que, voilà, c'est une gageure, parce que quand on arrive avec des qu'on place un observateur dans une situation, la situation, est-ce qu'elle est la même que s'il n'y avait pas cet observateur? Vous voyez, c'est une question assez classique en sciences sociales en général, dès qu'on place des instruments d'observation, d'enregistrement, dans quelle mesure ça des situations différentes. Ce qu'on a vu avant aussi, c'est qu'il s'agissait de, et ça c'est pas si simple, d'enquêter sur le cours d'expérience des élèves, c'est-à-dire sur ce qu'ils vivent à chaque instant, sauf qu'on peut pas, on n'y accède pas spontanément sur ce que les élèves vivent à chaque instant. Et donc, pour ça, on utilise des méthodes d'enquête qui sont essentiellement des méthodes qualitatives, alors assez variées, hein, c'est-à-dire qui empruntent à la fois à des méthodes d'observation comme assez classiques, le recueil de traces continues de l'activité des élèves grâce à des enregistrements vidéoscopés, donc ça c'est ce que tout le monde connaît sans doute, l'enregistrement de leurs conversations et des dialogues entre les élèves, mais aussi, et de plus en plus, et sur certaines études ça a été fait même de façon massive, des observations au long cours complètement impliquées dans la classe, et sous la forme d'observations ethnographiques, sous la forme de notes, de participation observante, d'observation participante, selon le. Bon, en fait, les méthodes d'accès à l'activité et de documentation finalement de cette activité des élèves, elles sont assez variées. Je verrai des gens tout à l'heure qui, quand on fait des études sur la course d'orientation, par exemple, sur l'activité des élèves en course d'orientation, évidemment, on ne peut pas les suivre avec des caméras, des micros. Donc là, les élèves, moyennant une familiarisation avec tous ces outils, hein, bien sûr, sont porteurs de lunettes, de lunettes, de films, de leur champ de vision, par exemple, sur la représentation, ce qui nous permet aussi d'avoir des données sur la dynamique de leur parcours, etc. Et puis, il y a ces entretiens qui permettent, lorsque c'est possible, lorsque les élèves sont d'accord, lorsque les conditions favorables pour une relation de confiance, une relation d'expression libre sont réunies, des entretiens qui permettent de remettre les élèves dans cette situation de manière à ce qu'ils expriment ce qui n'est pas observable directement par l'observateur précisément. Donc voilà, ce qui renvoie justement à leurs sensations, à leurs sentiments, à leurs intentions, à des interprétations qui ont pu échapper, ou en tout cas qui n'apparaissent pas dans les dialogues qu'ils ont et qui sont enregistrés, etc. Bon, voilà, donc là vous avez un extrait de ces entretiens, mais sachez que l'enjeu de ces entretiens, ce n'est pas des entretiens qui visent à d'emblée demander à l'ex-dev d'expliquer son propre comportement, mais qui visent à simplement l'aider à se remettre en situation. Et il faut qu'il accepte ce jeu-là et qu'il comprenne ce jeu-là pour décrire ce qu'il fait, ce qu'il ressent, ce qui se passe pour lui, mais justement en évitant toute posture trop distanciée, trop normative, trop analytique sur ce qu'il fait. Alors, c'est qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là. Évidemment, c'est l'entretien, il faut qu'il soit fait assez rapidement après, après cette situation. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données-là? C'est, là encore une fois, c'est un balayage assez rapide, mais finalement, c'est une méthode qui vise à reconstruire ce cours d'expérience, reconstruire ce qui est cette activité vécue, incarnée, située, etc., des élèves, et donc du point de vue des élèves. Et donc, à partir de ces données, on reconstruit. D'une part, alors différentes catégories de l'expérience. Alors je passe sur l'explication précise de ces catégories-là, mais qui vise à rendre compte d'un côté des préoccupations de l'élève, ses intentions, ce qu'il cherche à faire, ce vers quoi il est tendu, de ses attentes, lorsqu'elles peuvent être affairées ou lorsqu'elles sont exprimées, et aussi des connaissances qui sont mobilisés dans son activité. Et ça, c'est ce qui c'est finalement ce qui traduit le déjà-là, ce que l'élève véhicule lorsqu'il s'engage dans cette situation. C'est aussi la documentation de ce qui est significatif pour l'élève à chaque instant dans la situation. Donc là, les événements que lui perçoit comme étant particulièrement saillants, les actions, les interprétations, tout le dialogue interne qu'il peut avoir à ce moment-là, je me dis que tiens, il faut, pendant ma confrontation, il faut que je prenne ce chemin-là, puis je me dis que c'est une erreur, etc. Enfin, bon, bref, tout ce qu'il peut avoir comme interprétation, mais aussi comme sentiment qui s'exprime à ce moment-là. Et puis, on essaie de documenter également ce que l'élève construit comme nouveau savoir, nouvelle connaissance à chaque instant. Voilà. Donc en fait, l'enjeu de l'analyse, si je la schématise, c'est de restituer à la fois ce qui constitue une part du déjà-là dans l'activité de l'élève et qui mobilise par habitude, des choses qui sont déjà construites dans son histoire, ce qui émerge dans la situation, et ce qui ouvre de nouveaux possibles pour le futur. Et cette analyse, donc là c'est très sommaire, mais cette analyse, on peut la mener et on l'amène à deux niveaux, qui est le niveau de l'activité, comme je disais tout à l'heure, locale, en train de se faire, c'est-à-dire comment un élève passe d'un instant à l'autre, qu'est-ce qui fait qu'il change, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné il comprend ou il découvre une solution à un problème donné, qu'est-ce qui fait que, donc là, on s'intéresse d'une façon très, très, très locale, un peu microscopique à cette dynamique de l'activité des élèves, mais on peut s'intéresser aussi à l'activité des élèves à un niveau plus macroscopique et plus global qui est qui traduit par exemple des changements de stratégie dans l'activité des élèves, des changements de préoccupation. Voilà, donc ça c'était sur la partie un peu théorique. Alors, si je complète un tout petit peu cette partie-là par comment on appréhende l'activité collective et cette notion de communauté. communauté ou de ce qui se partage entre les élèves. Alors déjà, d'emblée, avec ce que j'ai expliqué avant, on peut se dire finalement, l'activité collective, c'est toujours des activités autonomes qui se coordonnent, qui interagissent. C'est jamais un collectif qui préexiste et qui préfigure ce que font les activités des élèves. En même temps, cette activité collective, elle existe aussi, évidemment, comment le dire. Enfin, donc, la première condition qu'on adopte, enfin, qu'on applique pour analyser l'activité collective, c'est de partir de ces cours d'expérience individuelles, qu'on appelle d'ailleurs individuels sociaux, parce que d'emblée, ils s'intègrent autrui, l'activité des élèves, l'expérience des élèves, elle est tout de suite et immédiatement en relation avec les autres, dans la classe, avec les autres élèves, avec le prof, etc. Mais on considère que ces interactions entre les élèves, elles sont constamment, en permanence, finalement, construites, déconstruites, reconstruites. Bref, qu'elles sont toujours dans une dynamique de construction et qu'elles ne sont jamais posées comme telles initialement. C'est pas parce que les élèves font partie d'une même classe, d'une même équipe, que ça détermine d'une façon forte la manière dont ils interagissent, même les rôles. Ça, c'est assez intéressant quand les enseignants attribuent des rôles sociaux aux élèves. Bon, ben, en fait, ces rôles sociaux de tuteur, de tutoré, d'observateur, de coach, etc., peuvent tout à fait être complètement rejoués, redéfinis de façon permanente par les élèves. Et cette activité collective, donc, on va essayer d'analyser à différents niveaux. Le premier niveau, il est assez basique, c'est le niveau de l'activité collective de chaque élève impliqué dans un groupe ou en tout cas dans des interactions avec les autres. Donc le premier niveau, c'est on s'intéresse à de quelle façon chaque élève prend en compte les autres. Donc dans l'expérience du groupe, comment il prend en compte l'expérience de ses partenaires, de Zachary, de Tom, etc. Et on peut faire la même chose avec Tom et d'ailleurs voir s'il y a des coïncidences, des correspondances, s'il partage les mêmes intentions, les mêmes connaissances, le même référentiel, etc. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Quelle forme d'interaction ou de partage on peut avoir entre les élèves? Donc on s'intéresse à, par exemple, quand on leur demande de coopérer, qu'est-ce qu'ils sont obligés de construire qui va être commun à ce petit groupe pour qu'ils leur permettent de coopérer? Qu'est-ce qui va leur permettre d'améliorer, d'optimiser leur coopération au cours du temps? Ou au contraire, qu'est-ce qui va expliquer qu'ils soient dans des situations de malentendus, de difficultés pour s'entendre, pour mener un projet commun, etc. Et puis il y a un troisième niveau, qui est un niveau un petit peu plus global, et là qui rend compte davantage de ce qui se construit d'abord à une échelle un petit peu plus large et aussi dans une temporalité aussi plus longue, c'est quelles significations plus globales sont partagées ou pas au sein d'une classe. Je ne sais pas, je vais prendre par exemple les exemples de la façon dont les élèves se comportent vis-à-vis de... les uns et les autres, mais en relation avec l'évaluation scolaire et la façon dont ça transforme et dont ça reconfigure les relations de coopération ou d'opposition entre les élèves lorsque dans une tâche c'est évalué ou ça n'est pas évalué, le fait d'être l'instrument par exemple de l'évaluation de l'autre dans une activité sportive d'opposition. Comment ça joue sur cette activité d'élève, comment ces normes sont partagées au sein de la classe. Par exemple, il y a certaines classes dans lesquelles on a fait nos études, les élèves disent si c'est évalué, quand c'est noté et qu'on est en compétition, alors j'essaye d'être sympa avec mon adversaire, même si, justement, même si je suis en train de faire un match, si c'est noté, là, non, il faut quand même pas être salaud. Si c'est pas noté, alors là, je peux y aller, je peux y aller et gagner le match avec un gros écart au score. Mais, donc en fait, dans la classe, ce partage, et ce construit, ce partage, toutes sortes de normes, de façons de faire, de façons de... Et évidemment, ça... Tout à l'heure, je disais qu'il n'y a pas de politique qui préexiste, mais bien sûr que ça, c'est une dimension culturelle de la vie des classes qui préexiste d'une certaine manière, ou en tout cas est latente en permanence dans l'activité des élèves. Et on traduit ça, là j'ai repris ces trois dimensions que Étienne Wenger prend pour caractériser des communautés de pratique, mais cette idée d'entreprise commune, de répertoire partagé et d'engagement mutuel, on les a pris comme des descripteurs aussi de l'activité des élèves à ce niveau-là d'organisation. Alors maintenant j'en viens au... Est-ce que ça va ? J'en viens aux illustrations. Alors, je disais tout à l'heure, c'est des illustrations qui sont issues d'études faites par des étudiants essentiellement récemment. Et je prends quatre illustrations pour reprendre un petit peu ces différents niveaux d'analyse de l'activité. Et rentrer un petit peu dans le concret. Alors, bon, je vais commencer par cet exemple. C'est des exemples, je pourrais les approfondir si vous souhaitez. C'est assez rapide du coup, mais la navigation spatiale en course d'orientation comme expérience incarnée et située, je fais référence à un travail qu'a mené un jeune collègue qui faisait sa thèse à ce moment-là, Martin Mottet, qui est spécialiste de course d'orientation, qui est un passionné de course d'orientation aussi bien au niveau de l'enseignement qu'au niveau de son travail de recherche. Et on a étudié d'ailleurs. Et on a, il a étudié l'activité d'élèves qui novice en cours d'orientation et pendant toute la durée d'un cycle de 12 séances d'apprentissage de la cours d'orientation. Donc il y avait 8 orienteurs novices, 12 séances. Le protocole était un peu le protocole entre guillemets, il n'y a jamais un protocole type, mais en tout cas, dans ce cas-là, c'était ce que je vous ai dit tout à l'heure, les orienteurs étaient équipés de lunettes qui permettaient de filmer les scènes, leurs scènes visuelles, grosso modo, pendant la course. Bon, ils étaient aussi, on avait tout un système, c'est assez simple, en augmentation, permettant de faire le tracking de leur trajectoire avec une montre GPS, etc. Donc, d'avoir des éléments sur leur... sur leur course telle qu'elle s'était vraiment déroulée au-delà de leur perception des choses, et puis les autoconfrontations ont été menées aussi avec eux à la suite de ça. Alors je vais prendre juste quelques éléments disons qui ressortent de ce travail mais qui sont assez intéressants, que je trouve assez intéressants. C'est bon, quelque chose qui peut paraître en apparence assez banal si vous avez fait de la présentation, même si vous êtes perdu dans un bois inconnu et que vous ne saviez plus très bien retrouver votre chemin, et puis qu'à un moment donné vous vous dites « Ah tiens, oui, tout à l'heure je suis passé par là, oh ben non, pas du tout, en fait c'était autre chose. » Bon, bref, ce genre d'expérience-là, les orienteurs novices vivent des expériences qui sont assez marquées, d'ailleurs aussi assez marquées émotionnellement, sur un continuum. Alors bon, lui il avait repéré 7 niveaux dans ce continuum, mais si on les résume d'une manière très simple, grosso modo, à des moments, les orienteurs savent qu'ils sont sur le bon chemin, en tout cas, ils pensent à ce moment-là qu'ils sont sur le bon chemin. Oui, je regarde ma carte, il y a le chemin, il y a le fossé qui est là, c'est bien ça que j'observe, etc. etc. Et donc là, ils sont confiants, ils savent, ils pensent savoir où. Enfin, ils estiment bien se situer et ils pensent être sur la voie. Il y a des moments où, à l'inverse, ils ont le sentiment d'être totalement perdus, de vraiment là, d'être complètement désorientés. Pourquoi je crois que là, mais pas du tout. Normalement, j'aurais dû trouver un pont, mais c'est pas du tout ça. Et, du coup, mais ils ne reconnaissent plus rien. Et il y a tout des, un ensemble d'états intermédiaires. Mais il y a des moments où ils se disent oui, je pense que globalement c'est par là, je me rapproche, je ne suis pas sûr d'être exactement sur le. Mais je pense. Bon, vous avez tous vécu ça, j'imagine que ce genre de. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que le, quand on fait l'histoire de chaque parcours de cours d'orientation, ce qui est assez. Ce qui nous a, nous, pas mal intrigué, c'est le caractère extrêmement fluctuant et sur des très grandes amplitudes de ces états de perception de son sentiment de bien être capable de se situer et d'être sur la bonne route. Et avec des changements radicaux. Alors, il y en a qu'on peut assez facilement expliquer. C'est-à-dire que l'élève se croit perdu et puis d'un seul coup, par hasard, il aperçoit une balise, il va à la balise, c'est la bonne balise et en ayant trouvé la balise, évidemment, ça le repositionne sur la carte et là, du coup, il n'est plus perdu. On peut expliquer ce genre de changement, mais c'est vrai qu'on observe à certains moments des changements qui, en dehors de ce genre de ce cas, de ce type de cas, qui sont extrêmement spectaculaires de changement. Alors ça, c'était ça nous a intrigué, mais ce qui nous a intrigué le plus, c'est quand on s'intéresse à quelle est l'expérience, dans quel monde est l'orienteur. Quand il vit ces différents types d'expériences. Et donc, Martin a analysé les éléments qu'il prenait en considération, qui étaient les plus significatifs pour lui et que l'orienteur prenait en considération d'une manière un petit peu plus saillante dans son expérience. Quand il croit qu'il est sur la bonne route, quand il pense qu'il est sur la bonne route, qu'il est capable de se situer, on s'aperçoit que là, il est pratiquement dans le schéma type de ce que s'imagine l'enseignant qui fait faire des courses d'orientation à ses élèves, pour tous les élèves, c'est-à-dire il est dans une situation de résolution de problèmes relativement simple, de comparaison entre des indices sur dans le paysage et les symboles qui sont sur la carte. Et donc, une sorte de comparaison, oui, ces indices correspondent bien aux symboles de la carte. Et donc, il est dans une relation, pratiquement, il est dans un monde où sa scène visuelle et la carte sont les seuls éléments qu'il prend en compte pour les enseignants. D'ailleurs, quand on les voit faire leur préparation de CO, pour eux, c'est les principaux objectifs qui se fixent portent sur la relation carte-terrain, la coordination carte-terrain, la mise en relation correcte. Et en effet, quand les orienteurs sont dans cet état-là, ils sont aussi dans cette activité-là, ce qui n'est pas très surprenant. Et quand on regarde ce qu'ils considèrent comme des éléments significatifs au moment où ils sont dans une situation où ils sont perdus, alors évidemment, quand ils sont perdus, c'est qu'ils n'arrivent plus à faire cette relation carte-terrain aussi, de façon aussi immédiate, mais du coup, ça ouvre leur monde d'orienteur à un ensemble d'autres indices qui sont extrêmement variés et qui deviennent extrêmement significatifs. Alors, les plus importants ou les plus courants, c'est les autres. Et ce qui nous a surpris, c'est le plus important, c'est la vitesse de course. C'est-à-dire que les orienteurs, finalement, estiment leur degré d'égarement au fait qu'ils ont couru vite ou pas vite pour arriver au point où ils en sont. Et donc ça leur donne d'emblée un indice sur le fait mais quand même, je suis allé vite, j'ai couru autant de temps, mais je devrais, normalement, la balise, j'aurais dû la trouver, c'est pas normal que je la trouve pas. Donc en fait, la perception de leur vitesse de course leur donne des indices qui sont pour eux les plus significatifs pour pouvoir savoir comment se réorienter, retrouver sa route, etc. Les autres, pour ceux qui ont étudié ou un peu la présentation, c'est pas, ou si vous en avez fait en tant qu'élève, en tant que débutant, dans négatif, c'est clair que lorsque vous vous sentez perdu et que vous voyez un orienteur de votre groupe aller par là, vous avez tendance à vous dire, bah, lui, sans doute, il sait où est la balise, et donc je vais le suivre. Donc en fait, très vite, les orienteurs se situent aussi par rapport aux autres. Mais aussi d'autres éléments qui nous ont assez intéressés, c'est par exemple le confort corporel, enfin ce que Martin a intitulé confort corporel, je trouve que ce n'est pas très, très bien labellé, mais c'est les orienteurs se disaient, c'est pas possible que le prof ait mis la balise par là-bas, on se pique trop. Il faut traverser des zones qui ne sont pas traversables. Donc en fait, il prenait en considération tout un ensemble d'éléments présents dans la situation qu'ils ignoraient évidemment ici et qui devenaient extrêmement importants ici. Donc en fait, finalement, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais on voit que le monde de l'orienteur change. C'est pas seulement un problème de relation carte-terrain qui devient plus difficile à faire à un autre moment, c'est d'un seul coup, on change de problème à résoudre et il change aussi de monde de la course d'orientation. Alors heureusement, je parlais d'histoire tout à l'heure, quand on compare le graphe de deux orienteurs lors de la première séance et lors de la dernière séance, vous voyez que ce graphe a changé de forme, en tout cas les moments où les orienteurs sont donc en bas, c'est quand ils ont plus le sentiment de savoir se situer et de s'orienter. Il y a encore des fluctuations importantes, mais globalement, on est passé d'un monde de la course d'orientation à un autre monde de la course d'orientation. Donc, juste pour conclure sur cet exemple, quand on dit finalement cette activité elle est fondamentalement incarnée, c'est qu'on voit là que la course d'orientation qu'on voit comme essentiellement un problème d'ordre cognitif, un problème de représentation d'éléments de paysage et en comparaison de ceux qui sont sur la carte, je dirais que le problème des orienteurs novices, c'est pas un problème d'ordre c'est un problème de construction vraiment d'un monde praticable pour s'orienter, un monde relativement source de ressources qui sont très très nombreuses et qui au départ, bien sûr, il faut s'en départir pour apprendre à faire de la course d'orientation, mais la réalité de l'expérience de l'orienteur, c'est ça. Et aussi, ça nous amène à faire, ça c'est plus en relation avec la littérature sur l'apprentissage de la course d'orientation, à remettre en question un découpage que font les chercheurs souvent en disant finalement la présentation c'est deux choses, c'est un, l'orientation, la navigation, problème cognitif, et deux, la locomotion. Si l'orienteur sait bien résoudre le problème cognitif et en plus il sait vite, alors ça va faire un bon orienteur. Et là on voit à quel point la locomotion pour des orienteurs novices, ça peut-être que pour des orienteurs experts c'est pour des orienteurs novices, la locomotion participe des éléments qu'ils prennent en compte pour s'orienter. La sensation d'avoir couru longtemps, d'avoir couru vite, d'avoir de courir sur un terrain qui est praticable ou pas praticable, etc. Donc ça, c'était un premier exemple. Sur un deuxième exemple, je vais me baser sur une étude qu'on a faite avec Benoît Huette et aussi une relation avec un travail qu'a fait Agathe Evin et Nicolas Terret, c'est sur cette notion d'histoire d'apprentissage. Dans cette étude-là, on s'était intéressé à. On avait suivi une classe de 3e qui était engagée dans un cycle d'athlétisme et on s'est intéressé en particulier à l'activité d'un groupe de 8 élèves. Tous les élèves étaient rassemblés par groupe de 8. Et il préparait pendant tout ce cycle ce que le prof avait appelé un triathlon athlétique où il faisait du lancer du disque, de la course de haie et du saut longueur. Et ces équipes, elles étaient hétérogènes. Le prof les avait établies de manière à ce qu'elles soient mixtes, hétérogènes, stables tout au long du cycle. Et il avait mis en place un système qui intéressait les élèves au fait que chaque élève fasse la meilleure performance à la fin dans le triathlon final, qui était un triathlon organisé sous la forme d'une sorte de défi contre les autres équipes, etc. Et l'équipe gagnante, il y avait une équipe gagnante qui avait marqué le plus de points dans ce triathlon. Ça, c'est pour vous donner une idée un peu du contexte. Et nous, on s'est intéressé plus particulièrement à ce qui s'est passé là, enfin, on va s'intéresser plus particulièrement à ce qui s'est passé dans la partie concernant le 10. Alors, quand on a analysé l'activité de ces 8 élèves individuellement, avec des entretiens individuels, etc., comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, ce qui nous a frappé, c'est d'emblée la très grande diversité des préoccupations des élèves dans la classe, et certaines de ces préoccupations touchaient à ce qu'on nous on a intitulé des histoires de vie de la classe, hein, et ça renvoyait à des histoires qui étaient relativement circonstancielles. L'absence d'un élève dans une équipe, ça pouvait faire engendrer toute une réorganisation collective parce que cet élève-là en particulier, il avait un rôle. Bon. Donc en fait, le fait qu'il soit absent, mais aussi ça engendre toutes sortes d'interrogations, pourquoi il est absent, etc. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui se déroulent dans les élèves qui sont liées à ça, et aussi des histoires de vie de la classe qui peuvent traduire ce qu'on pourrait appeler des habitudes, des routines de la classe. Quand vous arrivez en classe en EPS, vous travaillez avec un prof depuis assez longtemps, il y a tout un mode de fonctionnement qui peut être d'ailleurs surprenant quand on vient pour la première fois, mais qui pour les élèves est totalement familier. Ils savent qu'ils doivent prendre en charge l'échauffement tout seul et que ça commence comme ça. Ils savent qu'ils doivent venir voir les instructions au tableau et que c'est comme ça que ça doit démarrer. Ils savent que il y a toutes sortes de choses qui rentrent là aussi dans une histoire qui n'est pas associée directement à l'apprentissage final, ça, mais qui fait partie des routines, des habitudes de la classe. Et puis, il y avait ce qu'on avait distingué justement sous l'appellation d'histoire d'apprentissage, parce que celles-là, elles étaient un petit peu plus reliées au développement des compétences que voulait développer l'enseignant dans ces activités-là. Et donc, c'était des habiletés spécifiques, ça pouvait être chez les élèves l'histoire de défis et de performances. Il y a beaucoup de comparaisons entre les élèves, surtout dans les activités athlétiques, qui d'un coup va plus loin, j'essaie de battre le record du groupe, il y a des rivalités qui s'instaurent entre les élèves particuliers du groupe, etc. Et puis des histoires de relations et de coopération. On s'aperçoit dans le groupe, tout le monde ne coopère pas avec tous, tous ne sont pas enclins à aider tous les autres élèves, il y a des histoires qui se construisent comme ça de relations. Alors on a analysé un petit peu toutes ces histoires. Là, je vais prendre juste l'exemple d'un point, je vais pointer là encore un point particulier. On s'est intéressé à essayer de pister la transformation de ces histoires d'apprentissage. Là, en l'occurrence, il s'agit de développer des habiletés à bien lancer le disque et ce qui préoccupe les élèves au fur et à mesure de cet apprentissage. Bon, on a fait ça pour deux élèves, enfin je présente là ce graphe pour deux élèves, et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que, alors que ça n'est pas complètement synchrone avec les prescriptions de l'enseignant, c'est pas complètement lié aux exercices que l'enseignant a fait faire différentes leçons, on voit qu'au fil, au fur et à mesure des leçons, on a un peu la même évolution des préoccupations d'apprentissage des élèves, qui nous a amené à nous poser la question, mais finalement, si on piste vraiment très sérieusement ces histoires d'apprentissage, comment l'élève finalement dans la transformation de apprendre à bien lancer un disque ou apprendre à lancer efficacement un disque, si on piste les transformations de cette histoire d'apprentissage en termes de préoccupations, en termes de connaissances qu'ils développent, on pourra sans doute pister la dynamique de cet apprentissage et voir ce qu'il favorise ou ce qu'il favorise. Ça nous a donné pas mal d'idées qui ont été prolongé ensuite par, notamment par Nicolas Terray, sur ce pistage de ces histoires d'apprentissage. Mais dans cette étude-là, on s'est intéressé à autre chose, c'est comment quelle relation y avait-il entre le développement des compétences dans cette activité physique et le développement des relations et la transformation ou l'évolution des relations au sein de notre groupe. Et ce qu'on a pointé, c'est le fait que si on s'intéresse par exemple à un aspect, on l'a contrôlé le disque sans le serrer, lancer le disque dans le bon sens, c'était vraiment des choses qui préoccupaient au début les élèves, les élèves qu'on avait interrogés. Et si on regarde à quelles interactions ces moments-là correspondaient, on s'est aperçu que finalement, le gain, ou plutôt l'évolution dans la maîtrise la maîtrise technique, on pourrait dire ça comme ça, du disque, s'accompagnait chez les élèves, et ça on l'a remarqué de manière assez régulière ensuite, de transformation des possibilités d'interaction avec les autres en tant que tuteur. Par exemple, il y a des élèves qui, au début de l'apprentissage, sont essentiellement en position de demander de l'aide, d'être guidés et tutorés par les autres, et qui, au bout d'un certain moment, franchissent le gap et vont commencer à tutorer ou à aider d'autres élèves. Alors, ça sera à prolonger, mais ce que je trouve assez intéressant, c'est là aussi, on a tendance à séparer le domaine des compétences spécifiques et le domaine des compétences sociales. On a tendance à un petit peu distinguer ce qui est de l'ordre de l'organisation des interactions et ce qui est de l'ordre vraiment des objectifs d'apprentissage. Or, on voit qu'il y a une connexion assez étroite entre cette compétence développée et le statut qu'on peut prendre au sein d'un groupe, notamment dans les interactions d'aide ou de tutorat spontané entre les élèves. Donc c'est... comment dire, c'est quelque chose qui nous a pas mal intéressé ensuite. Et c'est ce qui a, comme je disais tout à l'heure, été prolongé par Nicolas Terray en particulier, finalement, qui montre, lui, il a pisté, si vous intéressez à son travail, il a pisté l'activité d'élèves en tout un cycle d'escalade, en essayant de regarder comment se transformer les connaissances dans l'expérience de ces élèves tout au long de ce cycle. Et il a mis en évidence d'une manière assez claire que finalement, la réactualisation d'une connaissance, elle ne dépend pas tellement de la façon dont le prof, lui, juge qu'il y a une possibilité de réinvestissement, de réactualisation de cette connaissance, mais davantage des connexions que l'élève fait avec l'expérience qu'il a vécue avant. Donc en fait, comment, pour lui, ça s'inscrit dans une histoire qui se prolonge ou dans une histoire qui a la même signification pour lui. Donc c'est un peu ce qui est traduit dans cette diapositive, c'est les histoires d'apprentissage, elles ouvrent un potentiel de connexion finalement entre des expériences qui vont permettre de réutiliser certaines connaissances développées dans les leçons précédentes. D'ailleurs, on peut se poser la question à un niveau plus large et se dire que si on développe dans le cadre scolaire des histoires d'apprentissage qui pourraient trouver un prolongement dans un cadre extrascolaire, alors on aurait davantage de chances de permettre une sorte de réinvestissement, entre guillemets, de ces apprentissages scolaires hors de l'école. C'est d'ailleurs à peu près la philosophie sur laquelle est fondée le sport education l'idée de construire des communautés sportives, de construire à l'échelle de cycles d'apprentissage, de cycles d'éducation physique, des dynamiques d'équipes qui s'inscrivent dans le cadre de saisons, qui sont relativement, qui permettent en tout cas que se structure cette continuité-là, cette histoire. Là, je m'aperçois que je suis un peu loin, non ? Je vais juste pour permettre aussi, parce que peut-être que c'est plus intéressant s'il y a un peu plus de temps d'échange, passer rapidement sur ce point-là, sur, sur le travail de l'Agathe des Vins qui, et notamment qui s'est centré sur l'analyse de transformation de la coopération entre les élèves et qui développe l'idée que cette coopération aussi elle se développe dans une histoire collective d'apprentissage. Et juste en pointant une chose qui moi m'avait assez marqué, c'est que lorsque des élèves sont amenés à coopérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors là c'est pour s'intéresser à, par exemple là, une pratique de cirque où les élèves devaient par petits groupes de trois fabriquer un mini spectacle de cirque au bout. Alors ils avaient une étape intermédiaire dans le cycle et puis ils devaient aussi préparer un spectacle pour la fin qui était comptabilisé dans l'évaluation finale du cycle. Et ce qui nous a frappé, c'est le fait que finalement, les élèves, dans le cadre de ce cycle, alors que ces connaissances-là ne sont pas explicitement enseignées ou qu'elles ne sont pas directement, qu'elles ne font pas l'objet d'une attention particulière de l'enseignant, développent davantage de connaissances relatives à leurs partenaires et des connaissances assez fines hein, sur leur... leur centre d'intérêt, sur leurs compétences, sur leur capacité à bien les guider ou pas, sur leur fiabilité dans certaines circonstances alors par exemple en escalade, c'était sur leur fiabilité à les assurer. C'est assez intéressant, c'est que les élèves construisent des compétences et des connaissances en tout cas liées à la tâche, par exemple en escalade, au cirque, liées à la façon de faire des jonglages, la façon de s'équilibrer sur les prises, etc. Mais finalement, développe davantage dans ces mêmes périodes de connaissances sur le fonctionnement du groupe et sur les autres élèves. Et c'est ce qui leur permet d'ailleurs d'avoir vis-à-vis des autres des fonctionnements extrêmement intéressants, des choses assez connues, spontané, etc., mais aussi de vigilance vis-à-vis de l'aide que peuvent leur apporter les gens, les partenaires de leur groupe, ou de ce que Agathe avait appelé vigilance critique, c'est-à-dire qu'il y a des partenaires, on sait qu'on peut leur faire confiance, mais jusqu'à un certain point. Des partenaires, je sais que lui, si c'est lui qui m'assure, oh là là, il faut que je regarde quand même ce qu'il fait, bon, etc., etc. Eh bien, on trouve que c'est très intéressant de pointer ça, parce que, en fait, les élèves, je pense que ça peut faire l'objet aussi, si on s'intéresse à l'apprentissage de la coopération entre les élèves, et ben, pour moi, je trouve que ça incite à instrumenter davantage cet apprentissage d'une connaissance mutuelle plus fine, d'une compréhension mutuelle plus fine, d'une évaluation mutuelle des compétences et la fiabilité de chacun, plus fine, etc. Bon, je viens de dire ça un peu rapidement, je passe là-dessus et je termine ce point sur un travail qui je vais le présenter d'une manière qui rend pas justice à ce travail-là, parce que c'est un travail particulièrement intéressant, très long, mené dans le cadre d'une année scolaire entière avec une classe qui préparait un spectacle de danse pendant une année entière. Et donc Marie-Cécile France a suivi en vivant quasiment 3 jours par semaine avec cette classe pendant toute une année pour son recueil de données. Et donc elle a pris à bras le corps cette question-là de comment, qu'est-ce qui se transforme au sein de cette classe qui est rassemblée au départ pour faire partie d'un atelier de danse et qui va progressivement se transformer en compagnie de danse, alors compagnie entre guillemets, hein, c'est pas une compagnie professionnelle de danse, mais compagnie de danse scolaire. Et bon, elle a mené cette analyse au long cours, comme je viens de le dire. Et ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est justement de pister les transformations de ces fameux descripteurs que Wenger identifie en termes d'entreprise commune, engagement mutuel, répertoire. créateur partagé. Alors là, je vais l'effet de cette présentation fait que ça comment dire, ça écrase un petit peu l'épaisseur et l'intérêt empirique de l'étude, mais ce qui nous a beaucoup frappé, c'est les transformations progressivement et extrêmement partagées au sein de la classe, les transformations de à la fois la façon dont les élèves considéraient ce qu'ils faisaient ensemble et dont ils partageaient cela, transformation des liens de solidarité, d'identification au groupe, des liens de mutualité entre les élèves, le sentiment d'appartenance au même groupe, de faire partie de la même compagnie, etc. Et aussi en termes de construction d'une microculture singulière à cette classe. C'est-à-dire que c'est vraiment progressivement un groupe qui s'est individué, si on peut dire ça comme ça, qui est devenu un groupe qui a acquis à la fois une identité et une extrêmement forte cohésion au sein de ce projet. Et alors ce que montre Marie-Cécile, c'est que cette cohésion et cette transformation, elle mêle finalement des dimensions, à la fois des dimensions propres à ce que c'est qu'apprendre la danse et acquérir une culture de danseur, mais aussi des dimensions proprement sociales, de constitution d'un groupe et de fabrication d'une vraie communauté au sein de cet établissement. Et aussi en dehors de l'établissement, puisque justement, ce qui faisait tout l'intérêt de ce travail-là, c'est que cette œuvre chorégraphique, elle a été présentée dans un théâtre de danse extérieur et qu'elle a mobilisé aussi tout un public qui était complètement externe à l'établissement. Bon, je trouve d'ailleurs assez intéressant, si on fait un lien entre culture scolaire et extrascolaire, c'est une expérience qui montre que lorsqu'il y a des passerelles dans le cadre des enseignements scolaires, et ces passerelles, là je viens de donner un exemple, mais il y en avait d'autres, par exemple une chorégraphe professionnelle est venue animer 2 ou 3 séances de danse pendant l'année, mais c'est pas neutre. Une chorégraphe professionnelle qui vient les entraîner, et eux aussi ont assisté à des entraînements d'une compagnie de danse professionnelle. Tout ça participe à cette acculturation, mais au sens, dans le sens que je disais tout à l'heure. Alors, la dernière partie, alors elle est rapide, elle peut être même très, très brève si vous voulez, mais c'est vrai qu'elle portait davantage sur des illustrations de qu'est-ce que les profs de PS, du coup, peuvent en faire, et en tout cas, quelles idées ça peut donner en termes de principes généraux et d'illustrations un peu concrètes. Mais donc, bon, nous on appelle ça concevoir des espaces d'action et d'interaction encouragés permettant de construire des histoires d'apprentissage. Je vais donner juste des exemples. Des exemples qui portent sur des principes. Pour que ça fasse histoire, il nous semble que les expériences des élèves doivent être les plus marquantes, les plus saillantes. Alors pas toutes les expériences des élèves, puisque celles qui correspondent à ce qu'on veut leur enseigner et celles qui correspondent au cœur des contenus qu'on veut transmettre. En tout cas, que ça, ces éléments-là soient travaillés de manière à ce qu'elles puissent être associées pour les élèves à des expériences les plus marquantes. J'ai pris quelques exemples de le jeu du banco. Je ne sais pas si vous connaissez en badminton, le jeu du banco, ça consiste à... C'est très simple, hein, on fait un match de badminton, mais on dit aux élèves, lorsqu'ils sont susceptibles, ils sont en mesure de rompre l'échange sur le coup suivant, par exemple de se matcher et de marquer le point. Alors dit, si vous annoncez banco à ce moment-là, juste avant, vous avez 3 points. Mais si vous annoncez banco et que votre adversaire rattrape, alors ça vous fera moins 1 point. Donc il y a une prise de risque, vous gagnez 3 points, mais vous pouvez. Les collègues qui avaient un peu initié cette situation. situation qu'il avait testé, nous disait ouais, c'est très intéressant parce que ça permet davantage à l'élève de prendre conscience des moments favorables à la rupture de l'échange. Alors, ok, on a fait un travail d'analyse de l'activité des élèves avec des auto-confrontations, etc. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que finalement, ce qui changeait le plus, c'est que les élèves étaient davantage en mesure de raconter leur match quand ils étaient dans la situation de banco que quand ils étaient dans une situation de match normale. Quand ils étaient dans la situation de banco, ils savaient exactement là où ils en étaient quand ils avaient annoncé banco, mais aussi là où ils en étaient quand leur adversaire a annoncé banco. Bref, ces expériences-là, de banco de leur propre chef ou de l'adversaire, constituaient des expériences particulièrement remarquables, saillantes. Et bien, en fait, l'interprétation qu'on a faite après, c'est de dire finalement, si c'est intéressant cette situation, c'est peut-être plus parce que ça crée des balises dans la dynamique du match de l'élève. Est-ce que je prends des risques pour annoncer mon banco maintenant? Est-ce que je... Bon, plus que cette histoire de ça préoriente sur la configuration favorable à la rupture de l'échange. Il y a d'autres exemples. Par exemple, Martin Mottet, il avait élaboré un système comment dire, en cours d'orientation, un système de suivi d'itinéraire. C'est tout le monde fait ça, hein, les profs font ça, suivi d'itinéraire, c'est-à-dire on dessine le trajet que doivent suivre les élèves. Ils n'ont pas donc de choix d'itinéraire à faire, mais on ne dit pas où sont les balises sur ce trajet. Donc si vous ne faites pas, si vous faites pas l'itinéraire exactement, vous pouvez passer à côté de la balise. Et l'itinéraire, il le surlisait tout simplement sur une carte d'orientation, de course d'orientation. Et en fait, on s'est aperçu que les élèves, en fait, se basaient beaucoup plus sur la forme du trait pour essayer de regarder dans l'environnement s'ils ne voyaient pas une analogie avec cette forme du trait que sur ce à quoi était destiné le surlignage, c'est-à-dire désigner des lignes à suivre, désigner des lignes remarquables à suivre sur la carte de course d'orientation, c'est-à-dire un fossé, un chemin, une levée de terre, je ne sais quoi. Bon. En fait, les élèves se détournaient de ça pour regarder la forme globale du trait. Et en plus, ils se repéraient par rapport à des habitudes qu'ils avaient de repérage dans l'espace usuel, c'est-à-dire que s'ils voyaient sur la carte qu'il y avait, s'ils repéraient sur la carte la maison qui était là-bas, ben, la maison elle est là-bas, donc moi je suis là, etc. Donc ils se repéraient sur des indices très grossiers et qu'ils pouvaient repérer rapidement sur la carte. Donc en fait, cette situation de suivi d'itinéraire loupait un peu son but, en tout cas n'engageait pas les élèves vers une précision dans l'orientation telle que le souhaitait Martin. Donc il a imaginé en fait une situation dans laquelle il appelle ça le corridor, dans laquelle il ne conserve que les parties de la carte qui sont dans un corridor autour de l'itinéraire qu'il veut faire suivre aux étudiants ou aux élèves. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, ça amplifie l'importance, là de manière complètement artificielle, l'importance que peuvent avoir les points de repère qui sont à l'intérieur de ce corridor, et les élèves ne peuvent plus s'orienter sur des points de repère lointains, ils pourraient observer comme ça, dire, ah tiens, il y a le niveau de là, il y a la maison là. Bon, et puis j'ai repris aussi un exemple dans une situation que propose Jean-Luc Vivaldi, qui est très connu, mais parce que je trouve que voilà, on a des amplificateurs d'expérience, faire nager les élèves, c'est la situation de la chenille, il appelle ça comme ça, par deux, qui tiennent par les pieds. Mais alors lui, il fait des courses de natation comme ça, et même c'est la situation de référence dans certains de ses cycles, il évalue les élèves sur cette situation-là, et non pas sur une situation de natation. Parce qu'il dit, finalement, lorsque on est capable de faire fonctionner un duo comme ça, alors on a compris tous les éléments, notamment qui permettent de gérer l'équilibre du corps à plat et donc d'organiser sa respiration de manière à maintenir cet équilibre du corps à plat. Parce que si celui derrière lève la tête et appuie sur les pieds, bah, le premier va être moins propulsif, moins aligné, etc. Donc il dit, en fait, mais ça, cette situation-là, elle amplifie les effets, justement, de... les effets négatifs ou en tout cas pénalisants de enlever de la tête ou un dressage de la pression. Bon, je vois Denis qui commence à s'inquiéter, mais il a raison, je suis désolé. Je vais juste conclure. Parce que le deuxième principe, c'est finalement. Connecter les expériences. Le premier, c'était amplifier, faire en sorte que des expériences soient saillantes et qu'elles correspondent à ce qu'on veut enseigner. Le deuxième, c'est connecter les expériences, faire en sorte que les élèves connectent, fassent des liens. Et ça renvoie à une forme d'inventivité pour trouver tous les liens d'analogie, métaphorique, etc., qui pourraient exister entre diverses situations et qui aident à s'inscrire dans, qui aident les élèves à s'inscrire dans une histoire qui se trouve ici. Prolonge, bon, je pourrais développer cet exemple, mais je ne vais pas le faire. Et puis faire en sorte que les dispositifs favorisent la construction de ces histoires collectives que j'ai évoquées tout à l'heure. Bon, je pourrais développer cet exemple si vous souhaitez, mais là je ne vais pas le faire non plus. Mais je vous laisserai par contre ceux qui s'intéressent, en tout cas le diaporama si vous souhaitez. Et puis j'ai repris cet exemple aussi, les auteurs de ce dispositif ne se réfèrent pas du tout à une approche située ou à celle qu'on promeut, mais par contre, le dispositif de, je ne sais pas si vous le connaissez, de la grande évasion, c'est un dispositif qui amène les élèves à s'inscrire dans un scénario où ils doivent délivrer des prisonniers qui sont prisonniers sous l'eau, enfin bon, toute une histoire, un scénario, toute la classe doit réussir ensemble, toute la classe doit aider les autres, tout le monde doit s'en sortir, tous les prisonniers doivent être... Et c'est un exemple, là je donne juste un peu la surface des choses, mais c'est un exemple qui illustre assez bien pour moi la façon d'inscrire les élèves dans une histoire collective à des échelles plus globales, comme celle de la danse de tout à l'heure. Voilà. Et puis, je vous laisserai le diaporama. Si certains sont intéressés, pour aller plus loin, il y a d'autres ressources un peu récentes qui peuvent permettre de compléter, d'illustrer. Voilà. Donc, en tout cas, je peux m'arrêter sur ce point-là. Si on peut échanger. Je suis désolé d'avoir été d'ailleurs. Ce que j'ai aussi relevé chez des athlètes de haut niveau qui revivent des moments très difficiles et des émotions très intenses dans leur course et où, en autoconfrontation, à nouveau, il retrouve cette... Même quand la course s'est bien passée à la fin, c'est-à-dire qu'un début de course raté, ils vont le revivre en autoconfrontation, même si la course, ils l'ont gagnée après. C'est assez intéressant à...
Et les moments d'autoconfrontation, c'est les élèves qui le choisissent ou c'est vous ?
Non, enfin...
Le chercheur.
On visionne...
Tout.
Ouais, pratiquement
à
tout.
À tout, on pense qu'on va le filmer.
Sauf quand, oui, sauf quand vraiment on est très limité dans le temps, et où là, on visionne certains passages où il ne se passe pas grand-chose, ou un peu plus rapidement, mais tout en disant à l'élève, tu nous dis quand arrêter, s'il se passe des choses importantes pour toi ou intéressantes, tu arrêtes. Et c'est l'élève, c'est le chercheur et l'élève qui peuvent arrêter le défilement dans la façon dont on fait. Mais il y a des petites variantes en fonction des chercheurs. Merci.
Une question, c'est par rapport aux... Je trouve ça intéressant, c'est les 7 niveaux de à quel point ils se sentent perdus, en fait. Et je me demandais, en fait, comment est-ce que vous procédiez pour évaluer s'ils sont au niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7.
Ah ben, là, il faut que... C'est qualitativement... c'est un découpage, en fait, qualitatif qui porte sur... Moi, j'ai simplifié, là, hein, j'ai refait trois grandes catégories, mais ces catégories, elles sont en fonction de ce que vraiment de ce qu'exprime l'élève et de ce qu'il prend en compte. Et on perçoit bien, il faudrait que je peux te conseiller de lire la thèse, ou au moins le passage où il découpe, où il décrit ses 7 niveaux. Mais c'est un travail de catégorisation qui passe par une comparaison systématique de l'ensemble des expériences des élèves et un regroupement de toutes celles qui coïncident et qui ont les mêmes caractéristiques. Donc voilà. Et ensuite, un étagement, bon, qui est peut-être discutable en partie, mais un étagement que lui a identifié comme étant, comme reflétant. Alors là, j'ai plus en tête ce à quoi ça se réfère. Mais par exemple, sur le sentiment d'être à peu près sur le bon chemin, c'est quelque chose qui est assez flou, être à peu près sur le bon chemin. Et en même temps, dans l'expérience des élèves, c'est quelque chose, ils disent non, mais je sais que là, je suis pas sûr, mais je sens que je suis quand même bon. On est dans la bonne direction, c'est presque sûr ça. Pas sûr qu'on soit exactement sur la ligne, mais ça va quoi. Et bon, il y a d'autres moments, mais en fonction de ce qu'il prend en compte, il va catégoriser ça.
D'accord.
Mais si ça t'intéresse, je pourrais t'envoyer le document qui précise.
Bonjour, merci pour votre conférence. J'ai juste une petite question. Moi, j'ai cherché le corps. Tous les exemples étaient effectivement en éducation physique ou en activité physique. Mais par exemple, le dispositif du voleur en natation, on peut l'imaginer pour d'autres types d'activités qui seraient des activités plus intellectuelles, qui mettraient moins en jeu les corps en tant que tel. J'aimerais savoir si vous pouviez revenir sur la question de l'incarnation et la question de l'expérience corporelle, hein, du rapport à l'autre, de la manière dont il se construit, ce qu'il induit dans la construction du nous, par exemple, est-ce qu'il induit quelque chose qui est spécifique aux activités physiques ou qui peut aussi se poser dans un travail collectif qui aboutit à la représentation ou à la monstration d'un travail fait dans une classe pour l'extérieur. Est-ce qu'on peut imaginer que ce même type de travail crée justement le collectif alors que le corps est fort.
Oui, mais je pense que là, vous pointez quelque chose qui est assez important. Moi, j'ai assez conscience, j'ai commencé d'ailleurs par ça, que finalement, le corps, on le prend en compte en tant que quelque chose qui renvoie à des ressentis, à du vécu, exprimé par l'élève. Et ce passage par le. Enfin, en tout cas, cette importance très prépondérante donnée à la verbalisation des élèves sur leur propre activité occulte, en tout cas, toute une partie de dimensions qui sont qui seraient analysées d'une manière un petit peu plus fine si on prenait en compte des dimensions strictement, des expressions strictement corporelles, d'attitude. Alors, je ne sais pas si ça renvoie à votre question.
Personnellement, j'essayais de cerner finalement si l'idée du corps n'apparaissait pas, parce qu'on était en EPS, alors qu'on était dans, dans une construction de connaissances, quelles qu'elles soient. Et je me disais, mais les connaissances par rapport au corps qui ont quand même été, qui me semblent avoir, hein, je ne suis pas du tout spécialiste de l'activité physique, mais qui me semblent passer par, par des médiums particuliers, des médias particuliers, apparaissent peu. Et c'est ce qui amène cette connaissance. Je me suis simplement référée à une œuvre, notamment sur la construction d'une œuvre chorégraphique pour créer un nous. Je me dis, mais la présentation d'affiches et de travail d'analyse sur des affiches racistes par une classe, ça crée le même type de nous. Et il n'y a aucune activité physique fondamentale. Il y a le même type d'activité intellectuelle. Donc, c'est comment l'activité physique intervient là-dedans. J'ai bien compris que le corps était support du ressenti. Mais comment il se joue, comment, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait en plus de ce qu'on pourrait avoir si on analyse la construction d'une activité cognitive, je ne sais pas, liée à l'exercice de la dissertation.
Je sais pas trop. Enfin, là-dessus, il y a une question qu'on se posait à un moment donné, je pense qu'elle rejoint celle-là, c'est celle de en quoi certaines pratiques physiques ont une pertinence motrice. C'est-à-dire que toutes les pratiques sont impliquent le corps, quelles qu'elles soient. Les pratiques dites intellectuelles impliquent le corps. Mais est-ce que certaines pratiques, de par le fait que c'est une pratique qui dont l'objet, c'est l'activité physique, c'est des prestations physiques, etc. Et ça, c'est un point sur lequel moi j'ai beaucoup de mal à trancher. J'ai tendance à dire, finalement, les pratiques physiques qu'on a en éducation physique, il n'y a pas de raison que, par nature, elles diffèrent de pratiques qui serait strictement dite intellectuelle. Je pense que le corps des élèves dans la classe en mathématiques, le corps de l'enseignant qui déplace, les dimensions à la fois matérielles et physiques de ces situations-là, elles conditionnent également, je pense, les apprentissages des mathématiques ou même la façon dont on remobilise ces connaissances de mathématiques. Je trouve que l'expérience de... je ne me souviens plus d'autres auteurs, mais elle est rapportée par Jean Leib, des Weight Watchers qui, dans leur cuisine, qui résolvent différemment un problème qui pose un problème de proportionnalité, de maîtrise de la proportionnalité, lorsqu'il s'agit de mesurer, enfin, de doser des aliments dans une cuisine, mais dans les conditions concrètes de la cuisine, avec en manipulant les instruments de cuisine, et quand on leur propose le même problème sous une forme académique, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qui change ? C'est la matérialité de la situation, la façon qu'on a de l'habiter corporellement, la façon qu'on a d'être en relation avec les autres. Dans une cuisine, ça augmente la convivialité, on déjeune avec d'autres, etc. À l'école, on retrouve un problème individuellement. Tous ces éléments-là jouent. Et du coup, je fais pas une grosse distinction entre les activités dites corporelles et les activités. Mais peut-être que ça faudrait plus en faire une, je ne sais pas.
C'est une question que je me posais, je ne sais pas.
Mais par contre, j'admets un peu, et ça nous est renvoyé souvent comme critique, c'est que la façon dont vous analysez, mais c'était pas la question, je comprends, c'est pas la question. Mais la façon dont vous analysez l'activité des élèves, finalement, confine aussi aux cognitifs. puisque vous faites parler des élèves, c'est pas l'activité corporelle qui est en jeu, mais le discours sur, etc. etc. D'évaluation des performances des élèves, donc ils avaient une idée des performances des élèves, et puis d'ailleurs c'était même pas seulement une classe, mais deux classes qui s'étaient regroupées avec deux profs pour faire des groupes de 8, et il y avait 6 groupes de 8 avec ces deux classes-là. Donc, ils ont mis ces deux classes, et en effet, ils